Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC Football Show.
Simon Dutin.
À 18h59, c'est le coup d'envoi de la seconde période du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manuel Amoros, notre membre de la Dream Team RMC. À 20h, vous retrouverez l'after, évidemment, autour de François Pinet, mon maître à penser. Il sera accompagné ce soir de Sébastien Plossel et Florent Gautreau. Mais d'ici là, je vous le disais, on est ensemble jusqu'à 20h. On va parler du Mercato Ligue 1, vos souhaits pour votre club de Ligue 1. Vous venez nous appeler au 32-16 et confronter votre souhait aux infos dénichées par les fins limiers de la rédaction de RMC Sport. On parlera également Coupe de France avec Valentin Guichard, l'entraîneur de Jurassul, club de National 2, qui se mesure à l'AS Saint-Etienne, si tant est que ce satané Covid, virus du Covid, ne bousille pas, il n'y a pas d'autre mot, ouais, les 16e de finale de Coupe de France qui sont menacés, hein, c'est un carnage, un déluge, une avalanche, vous appelez ça comme vous voulez, mais les cas se multiplient. 20 cas recensés du côté du SCO d'Angers, une dizaine du côté des Girondins qui ont demandé d'ailleurs le report du match face à Brest. Et alors, je crois que les Girondins n'ont toujours pas reçu de réponse de la part de la Fédération française de foot. Vous aurez également, vous en avez pris l'habitude cette semaine, droit à votre best-of de Rotten sans flamme, l'émission qui monte. On reviendra aujourd'hui sur le passage d'Arsène Wenger, désormais directeur football à la FIFA, l'ancien manager d'Arsenal qui prône la Coupe du Monde tous les 2 ans. Idée un petit peu saugrenue qui fait réagir en tout cas. Je te demanderai évidemment ton avis, Manu. Mais pour l'instant, vous le savez, RMC, c'est la promesse de l'antenne, à les yeux partout et pas seulement sur le foot. On va faire un petit détour par l'Accor Hotel Arena, l'Accor Arena, pour le All-Star Game, comprenez, le match des étoiles. C'est la grande fête du basket français. On va retrouver Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut Simon, salut Manu, salut à tous.
Alors Arnaud, l'actualité de ce All-Star Game, c'est tout d'abord qu'il échappe aux restrictions de public imposées par le gouvernement qui prendront effet le 3 janvier prochain. Et du coup, il y aura du monde, beaucoup de monde ce soir dans la salle de l'Accor Arena.
C'est l'un des événements qui réunit le plus de monde dans la planète basket en France. Il y a soit l'équipe de France, soit le All-Star Game pendant les fêtes. 16 000 personnes à Bercy et tout le monde pourra être là, car comme tu l'as dit, l'entrée en vigueur des jauges, ce n'est que pour quelques jours. Et quel fut le ouf de soulagement des organisateurs et en particulier la Ligue Nationale de Basket de voir que la jauge de 2000 en intérieur n'était appliquée que le 3 janvier prochain. Donc oui, tout le monde a pu venir, il n'a pas fallu annuler cet événement qui l'année dernière n'avait pas eu lieu à cause du Covid. Donc ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu de All-Star Game en France. C'est un événement très important parce que c'est l'une des vitrines du basket français. On essaye de se rapprocher le plus possible d'un show à l'américaine et on y arrive avec tous les concours de dunk notamment, concours à 3 points, des surprises, une mascotte NBA. Il y aura la mascotte du Jazz de Utah qui sera là. Donc
la mascotte du Jazz, c'est quoi?
Non, je vous en dis pas plus, vous saurez tout à l'heure la mascotte du Jazz. Mais on a déjà eu Benny the Bull par exemple, qui est la mascotte des Chicago Bulls, où là c'est tout simplement un buffle. Donc la mascotte c'est un ours, hein, la mascotte
ours.
Du Jazz de
Utah.
Et
oui, il y a des montagnes en Utah évidemment.
Et oui, dans le pays des Mormons, tout ça, enfin Salt Lake City pour être précis. Donc là le show va démarrer dans quelques instants. Il n'y a pas encore tout à fait 16 000 personnes à l'Accor Hotel Arena, mais on est déjà à plus de 12-13 000 avec effectivement contrôle, passe sanitaire, tout ça. Mais on sent que voilà, on profite avant les restrictions parce que c'est le dernier événement de cette ampleur avec plus de 10 000 personnes qui va pouvoir se tenir avant l'application de ces jauges. Donc on ne va pas bouder notre plaisir au cours de cette soirée qui va nous emmener jusqu'à 23h avec évidemment le match All-Star entre les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs étrangers du championnat.
Eh bien, tu m'as devancé évidemment parce que j'allais te demander de nous rappeler en un mot le principe de cette rencontre, parce qu'il y a quand même un match qui est souvent lui aussi évidemment ultra spectaculaire. Arnaud, que tu seras accompagné, je crois, de Nicolas Bayou qui va se promener un petit
Exactement.
Peu dans les tribunes.
On va aller interroger des personnes qui seront sûrement soulagées de profiter avant ces quelques semaines de restrictions. On va être privés de communion tous ensemble surtout en salle, parce que la jauge, on le rappelle, est 2000 en salle. Là, ça va être 16 000 à Bercy. Donc voilà, on va vous faire vivre un petit peu cette soirée également tout à l'heure dans l'after avec des invités, des gagnants de concours, hein, meneurs. Le concours de meneur qui va débuter dans un instant, concours à 3.2. Et puis, ces fameux, Manu, je ne sais pas si tu as déjà réussi un tir du milieu de terrain, mais entre le troisième et le quatrième carton, si vous réussissez, un spectateur va être choisi au hasard et il va pouvoir tenter de gagner 100 000 euros
du
milieu du terrain. Ça, c'est toujours l'attraction. En 2013, un spectateur l'avait réussi. Il n'a qu'une seule tentative. Il est au milieu du terrain devant tout Bercy.
Une seule tentative.
C'est incroyable. Ah, bah ouais, mais bon, il faut quand même au moins un essai d'entraînement.
Et non, c'est une seule tentative comme à froid. En 2013, Thomas avait réussi. Donc il avait pris les 100 000 euros, ce qui fait quand même une belle soirée.
Ah bah ouais.
Et voilà, faut quand même se lever de.
Tu passes un bon réveillon avec ça.
Ah oui, ça tu peux faire un boulet. Est-ce que tu as déjà réussi? Je sais pas, Manu. Hein.
Ah non, j'ai pas réussi, non.
Arnaud, c'est un tirage au sort. Comment il choisit l'heureux ou l'heureuse candidate?
Écoute, c'est un tirage au sort avec un projecteur qui va sélectionner une personne dans le public. Donc voilà, c'est il y a un chanceux qui va pouvoir tenter. Alors c'est quand même de la pression hein, devant 16 000 personnes. Certains ont fait le show, avaient un peu chambré, ils s'étaient fait huer. D'autres étaient un peu plus humbles. Mais voilà, ça fait partie du show effectivement de tenter des choses comme ça dans ce All-Star Game qui est toujours un événement très sympathique à suivre.
Ouais, Manu, pour 100 000 euros, t'aurais pu nous mettre une transversale un tir sur la barre transversale depuis le milieu du terrain, non?
Ça c'est facile à faire encore.
Excuse-moi.
Pour un ancien footeur, ça peut encore être facile. Alors, bon. Je ne te dis pas que je vais réussir, mais ça peut être facile.
Oui, c'est jouable. Alors, en tout c'est cas, jouable. Le All-Star Game, le match des étoiles du basket français, la grande fête du basket français à l'Accor Arena à partir de 20h15, hein, je crois, le début des festivités.
19h, les concours, et 20h15, c'est le début du match.
Le coup d'envoi du match, Arnaud Valadon, Nicolas Bayou, qui vous feront vivre ce super événement, évidemment, en fil rouge durant l'after autour de François Pinet. À tout à l'heure, Arnaud, et merci d'avoir fait le détour par le RMC Football Show. Nous, je vous le disais tout à l'heure, les plus fins limiers de la rédaction RMC Sport ont réveillonné avec leur oreillette pour vous dégoter les infos, les rumeurs mercato les plus solides, les plus consistantes, infos dont vous pouvez retrouver d'ores et déjà l'intégralité sur le site rmcsport.fr. Nous, on va faire une petite sélection avec vous, les auditeurs. Vous faites le 32-16 pour nous dire ce que vous souhaiteriez comme recrue pour votre club préféré. Petit focus pour commencer sur un club qui t'est cher, Manu, l'Olympique de Marseille. On accueille pour en parler Christophe qui a fait le 32-16. Bienvenue dans le RMC Football Show, Christophe.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Christophe.
Alors, Christophe, qu'est-ce que tu aimerais que le Père Noël porte à ton club avec quelques jours de retard? De quoi l'Olympique de Marseille a-t-il besoin, selon toi?
Alors, moi, je pense trois joueurs. Alors, surtout un ailier gauche titulaire. Parce que je pense que c'est là où on a le plus de soucis, parce que nos attaques... Donc, ben, en fait, on est tributaire uniquement de Payet. Et après, quand Under est là, le côté droit marche plutôt bien. Mais le côté gauche, faut dire ce qu'il est, que ce soit avec Conrad ou Luis Enrique, on n'a jamais trouvé la technique, hein, ça marche pas.
Ben, Conrad, on y a cru au début, Conrad, hein.
Ouais, c'est un peu
Mais trois matchs, c'est vrai. Ça s'est un peu calmé, ouais.
Après, c'est un jeune joueur, hein. Moi, je veux pas le pointer du doigt. Il est jeune. Je pense que c'est un joueur qu'on doit faire rentrer peut-être 20 minutes ou une demi-heure, ou peut-être dans des matchs un peu plus faciles où il y a des espaces. Le lancer pour qu'il puisse courir, mais c'est pas un titulaire. Je veux dire, pas pour l'OM en tout cas. Après, je pense que s'il y a départ de Camara, il faut évidemment le remplacer parce que c'est quand même une pierre angulaire du milieu de terrain. Hein. Quoi faut dire, non, en fait, on a plusieurs pierres angulaires au milieu de terrain parce que tu peux pas enlever Guendouzi, tu peux pas enlever Rongier qui fait ça avec arrière droit. Et Gay, surtout,
Gay qui va partir à la Coupe d'Afrique des Nations.
Ça va en plus, c'est vrai qu'on perd Gay du coup pour quelques temps. Donc ça, et après un défenseur central, parce que je pense que Luan Perez, axe gauche, ça y est, Saliba, axe droit, mais on va dire ou le stopper ou le central, je veux dire, les personnes, que ce soit Balerdi ou Douye Kaitaka, je veux dire, il n'y en a aucun qui est sûr de jouer à chaque fois.
Alors justement, si je peux confronter tes souhaits aux infos hein, récoltées par la rédaction de RMC Sport, effectivement, Sampaoli souhaite recruter un ailier gauche parce que effectivement, il est pas totalement satisfait par Luis Enrique le Brésilien et Conrad de la Fuente, on le disait, un peu trop irrégulier. Donc ça pourrait bouger selon les infos de la rédaction. Et effectivement, un défenseur central, c'est pas impossible. Parce que effectivement, en cas d'offre, voilà, Tchaletassar pourrait pourrait quitter le club. Quant à Camara, la tendance, selon nos infos, ce serait quand même plutôt qu'il termine la saison à Marseille. Marseille qui se serait résigné à le laisser partir libre devant la complexité des négociations. Manu, ton avis sur cette
tendance ? Moi, je pense que Longoria, il essaye de convaincre Camara de partir dès cet hiver avec pour récupérer un petit chèque. Il sera pas énorme, mais ça sera toujours ça. Et c'est vrai que Christophe, il a raison. Sur le côté gauche, il y a toujours eu du mal. Conrad, on pensait qu'il allait être super et malheureusement, il s'est essoufflé au fur et à mesure. Et puis, Luis Enrique n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, nous, les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, il faut ajuster tout ça. Je crois que Sampaoli a du pain sur la planche parce que c'est pas facile et ça sera pas facile de recruter si ils ne vendent pas parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut essayer de prendre quelques joueurs d'avenir et qui puissent amener l'équipe de Marseille au plus haut.
Bon, voilà, Christophe, Manu a l'air d'accord avec toi.
Ouais. Bah, ça fait plaisir surtout de dire d'avoir entendu Manuel Amoros me dire Christophe a raison. Je vais le garder, je me le mets.
Non, mais c'est vrai, tu as raison. T'as bien ciblé les faiblesses de l'Olympique de Marseille. Hein, donc il va falloir se renforcer là-dessus. Si bien sûr il y a des départs.
Messieurs, je Exactement. Ne résiste pas à l'envie de vous titiller là sur la situation de Steve Mandanda, tout de même, qui a sollicité un entretien avec Jorge Sampaoli et dont la situation devrait rapidement s'éclaircir. Christophe, comment tu vis, toi, la situation de Mandanda? C'est vrai que Paulo Lopez est plutôt performant. Est-ce que tu trouves cette situation injuste, justifiée, au contraire? Quelle est ta position là-dessus?
Après, moi, je suis supporter de mon club, pas tellement des joueurs, en fait, je veux dire, parce que les joueurs, ça reste à part. Bon, Steve, c'est quand même une légende du club, c'est quand même le joueur qui a joué le plus sous le maillot de l'OM, donc c'est pas rien. Là, du coup, c'est vrai que sa fin de carrière, peut-être qu'il le vit mal, ça, je peux le comprendre tout à fait, parce que peut-être qu'il pensait faire une dernière saison, mais qui sait qu'il va faire une dernière belle saison et partir, on va dire, sur une jolie saison, je veux dire, c'est très compliqué. Là, on a Paul Lopez, je veux dire, il a quand même pas été, je veux dire, son arrivée n'a pas été facile. Parce qu'il arrive dans un club où il y a un joueur qui a joué depuis 16 ans, qui est parti un petit moment en Angleterre, mais sinon ça fait 16 ans qu'il joue. Il est quand même très apprécié, c'est le capitaine. De ce qu'on a entendu, c'était pas, je veux dire, on nous a pas vendu un gardien de grande qualité, il faut dire ce qu'il est. Hein. Ouais. Je veux dire, on l'attendait tous au tournant. Il a été mis du jour au lendemain, on a dit bon, bah tiens, il joue. Ah, bah tiens, il rejoue, il continue de jouer. Et ben finalement, moi je le trouve pas mal, hein, je veux dire, factuellement. C'est plutôt un bon gardien. Hein.
Ah, et puis comme tu dis, Mandanda, c'était une légende de l'OM et avec des débuts mitigés dans un club où on peut pas se rater comme à Marseille, faut être très bon quand même hein, pour réussir à s'y
faire. Le début de saison de Mandanda, il est pas terrible en plus. Hein,
Manu, ouais.
On a tous connu la concurrence, nous les joueurs. Moi, j'ai pris la place de quelqu'un qui était depuis des années aussi à l'AS Monaco.
Qui
il y avait Fred Vitalis, il y avait Correa, il y avait pas mal de joueurs, donc voilà. Et moi en fin de carrière, ben c'est un jeune aussi qui a pris ma place. Il faut accepter. Jocelyn Angloma.
Angloma, ouais, à Marseille. Voilà.
Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait de la concurrence. Mmh. Ça permet de se maintenir et ça permet d'être performant. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais dans la situation de Mandanda, il faut l'accepter. Malheureusement, c'est comme ça. Et il faut aller dans le sens du club et non pas penser qu'à soi.
Voilà en tout cas Christophe supporter de l'OM qui est plutôt raccord et ça doit te faire plaisir avec les infos de la rédac de RMC Sport. Je vous les résume rapidement. Luis Enrique et Conrad de la Fuente qui ne donnent pas totalement satisfaction à Sampaoli qui cherche du coup un ailier gauche. Jordan Amavi, hein, je le précise également, qui serait poussé vers la sortie. Camara qui pourrait partir libre en juin prochain et Tchaletassar qui pourrait être remplacé si l'OM trouve preneur pour son défenseur.
Et je crois que Luis Enrique va le prêter aussi pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu et qu'il puisse s'affirmer dans le championnat français.
Luis Enrique, c'était la fameuse pépite, hein, je cite Longoria, lorsqu'il était arrivé, ça avait fait, un petit peu sourire du côté de l'entourage du club marseillais. Vous restez bien avec nous, Manuel Amoros est avec nous dans le RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h. On poursuit notre Tour de France des rumeurs et infos mercato dégotées par les fins de la rédaction de RMC Sport. Dans un instant, on va parler du recrutement et des souhaits de recrutement des supporters de l'AS Saint-Etienne et du LOSC. On sera des deux côtés du tableau du championnat. A tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Simon Dutin.
À 19h14, c'est le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie du membre de notre Dream Team RMC, Manu Amoros. On fait le tour de France des rumeurs mercato. Ce mercato qui ouvre le 1er janvier, évidemment, en France et en Europe. On parlait du recrutement et des souhaits de recrutement du côté des supporters de l'OM il y a un instant. On va descendre un petit peu plus bas, voire tout en bas du classement de Ligue 1 pour évoquer celui d'un autre géant du foot français dans un autre contexte. Non, vous n'aurez pas droit au géant vert. Désolé, je ne mange pas de ce pain-là. Saint-Étienne, donc, dernier de Ligue 1. 2 victoires seulement en 18 journées. Un nouvel entraîneur, Pascal Duprat, et des supporters qui rêvent évidemment de remontada au classement. On accueille Thibaut, supporter des Verts au 32-16. Salut Thibaut.
Oui, bonsoir.
Salut Thibaut.
Alors Thibaut, qu'est-ce que tu aurais aimé que le Père Noël apporte à ton club comme recrutement? De quoi rêves-tu en ce mercato? On précise que les Verts risquent de perdre Wabi Kazri et Denis Bouanga pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui va un peu plus compliquer leur situation. Que manque-t-il à ton club pour gagner des matchs en Ligue 1?
Ben, comme vous avez dit, ouais, on manquait de Kazri, de Bouanga, du coup des attaquants. Ben, si j'ai un rêve, c'est le retour de Aubameyang.
Ah oui, alors là, oui, oui. Ah, je veux pas être pessimiste, hein, mais j'ai un peu.
Ni optimiste. Que, ouais, on est...
là, ouais. Tu en as mis.
Ouais, mais t'as raison. Tu, ah, mais Simon, faut, tu as dit de quoi rêve les supporters.
Ah oui, non,
mais
effectivement, j'ai parlé de rêve. Oui, oui, c'est vrai. Oui.
C'est un rêve, mais vu qu'il joue plus Arsenal, là, pour l'instant, il est même plus remplaçant Arsenal.
Il est même plus dans le. Ouais, il est un petit peu mis à l'écart par Mikel Arteta.
Il faudrait que Arsenal le paye quand même, hein. Paye son salaire, parce que Saint-Etienne n'est pour en parler.
Apparemment, les présidents, ils ont dit qu'en quoi ils voulaient investir hiver, parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, si les deux présidents ils veulent vendre le club, s'ils veulent vendre le club, ouais, le prix qu'ils veulent le vendre, c'est-à-dire 100 millions d'euros, il faudrait qu'ils se maintiennent en Ligue 1. Du coup, s'ils veulent vendre le club en Ligue 1, il faudrait qu'ils investissent cet hiver.
Alors j'ai l'impression que Thibaut a déjà consulté l'excellent papier, hein, qui regroupe l'intégralité des infos collectées par la rédaction de RMC Sport, puisqu'effectivement, RMC Sport a appris que Saint-Etienne veut prendre des risques, Manu, sur le marché des transferts cet hiver. Donc ouais, évidemment, faire all-in prendre... hein, pour se sauver en Ligue 1.
Oui, mais est-ce que c'est des joueurs qui vont acheter ou vont essayer de un mercato malin en prenant des joueurs un peu comme en Longoria, en prêt, avoir pas mal de joueurs en prêt pour que se sortir de cette situation? Parce qu'en achat, est-ce qu'ils ont l'argent nécessaire pour le faire?
Non.
C'est pas sûr.
Apparemment, non, ils n'ont pas l'argent pour un achat, mais s'ils veulent faire recruter malin, si tu as un peu d'argent, bah, du coup, Aubameyang, tu payes 50% de son salaire.
Bah, tu peux pas. Ah,
mais même 50%, c'est pas possible.
Thibaut,
ouais,
tu peux pas.
C'est trop.
Tu peux pas. Soit c'est Arsenal qui le prête et qui prend en charge la totalité de son salaire, soit malheureusement, ton rêve ne pourra pas se faire.
Oui, c'est sûr, c'est un rêve. Après, sinon, bah, après, s'ils veulent recruter malin, bah, du coup, comme apparemment, ils sont un peu sur Ferry de Nîmes.
Ferrat, c'est pas mal, c'est bien,
ça rendrait service.
Ah ouais, ça c'est un beau joueur et ça peut faire énormément de bien à Saint-Etienne, ça.
Alors lui c'est un bon joueur. Ouais.
On précise que toujours selon les infos de RMC Sport, il reste un petit reliquat à toucher sur la somme du transfert de Wesley Fofana qui avait été transféré à Leicester et visiblement les Verts qui devraient toucher encore une dizaine de millions d'euros qui pourraient être mis à profit pour recruter. On rappelle que les Verts ont déjà engagé Joris Gnagnon, hein, l'ancien défenseur de Rennes, qui s'est perdu.
Il bat Carissaco aussi, qui est là pour l'instant, qui s'entraîne avec le club de Saint-Etienne. Mmh. Apparemment, Pascal Duprat espère un peu sur lui. Mais bon, c'est des joueurs, ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas joué. Tu espères qu'ils peuvent revenir. Mais bon, c'est pas des joueurs qui, voilà, ça fait 6 mois qu'ils ont pas joué. Il y a personne qui en veut. Et nous, on va les recruter pour se maintenir. C'est quand même très peu. S'ils veulent investir, sur le jour de Nîmes. Du coup, là, je suis d'accord. Mais après, sinon, il faudrait
pouvoir. Ouais, mais Thibaut, t'as dit qu'il faut prendre des risques. Donc, du moment que tu prends des risques, il faut prendre des joueurs qui n'ont c'est vrai, comme tu le dis, n'ont pas trop joué, mais que tu peux relancer aussi. C'est vrai que le championnat arrive très très rapidement puisque c'est le 9 janvier, mais ils ont une dizaine, une quinzaine de jours pour se remettre dans le coup. Et je pense que Duprat peut les remettre dans le coup au fur et à mesure des matchs.
Ouais, mais Nagnon et Sacco, et Bakary Sacco, ça fait plus, pratiquement plus d'un an qu'on est en train de tout parler d'eux.
Manu, toi, t'es...
On peut espérer, là, il faut croiser les doigts
Je crois que Manu est persuadé que Pascal Duprat peut sauver les Verts.
Je pense. Tu sais, dans le monde entier, il y a des joueurs. Donc tu peux recruter malin, comme j'ai dit. Donc il faut avoir des antennes un peu de partout dans le monde. Est-ce que Saint-Étienne les a? Je ne sais pas. Mais pour essayer de rester en première division, il y a des joueurs de qualité qui peuvent se faire prêter des joueurs de d'autres clubs. Ah, peut-être pas Aubameyang parce que c'est un salaire énorme et que Saint-Étienne ne pourra pas. Oui, mais il y a d'autres joueurs que tu peux aller chercher en Espagne ou éventuellement en Italie qui vont pouvoir t'aider à sortir de ce mauvais pas.
Bon, en tout cas, c'est sûr que ça va bouger du côté de Saint-Étienne, Thibaut.
Bah, il faut que ça bouge.
Y aura des... Oui, c'est sûr, ils n'ont pas le choix. Et puis Pascal Duprat, après la dernière défaite, a demandé des renforts. Alors qu'à son arrivée, il avait dit qu'il était resté un petit peu prudent de ce côté-là. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir fait le 32-16. Et bon courage dans ce qui s'annonce une fin de saison de toute façon avec ou sans renfort compliqué pour les Verts. On va remonter un petit peu jusqu'à la moitié du classement pour évoquer le recrutement du LOSC. Est-ce que Lille a besoin de recruter? C'est la question qu'on va poser à Frédéric. Salut Fred, merci d'avoir fait le 32-16. Bienvenue dans le RMC Football Show.
Oui, salut Frédéric. Bonsoir à tout le monde.
Bon, alors Fred, quel est ton souhait en cette période de Noël pour un LOSC qui va mieux après avoir inquiété en début de saison et on se met à la place de ses supporters avec un nouvel entraîneur et des résultats qui ont tardé à se bonifier.
À se concrétiser. Ouais.
Oui, ça va beaucoup mieux et c'est vrai qu'au niveau du recrutement, est-ce que Lille a besoin de vendre ces joueurs, je dirais non. Moi, je vois pas du tout des joueurs sur le départ, clairement, des Botman, des ceci, des cela, parce qu'on a passé la DNCG correctement, parce qu'on avait budgétisé un point en Ligue des Champions, on en a 11 et on se qualifie en 8e. Il y a la vente d'Ikoné, donc au niveau des départs, je suis vraiment très très serein. Maintenant, pour répondre à ta question, ce qui serait bien, c'est, je pense, un joueur offensif. Parce qu'au milieu de terrain, on a de quoi avec Renato, avec Onana, avec notre magnifique Benjamin André. Derrière, on tient la route aussi. Bon, le gardien, il fait un peu peur de temps en temps, mais il faut remplacer Ikoné. Il faut peut-être un autre buteur, même si Ikoné n'est pas vraiment un buteur, mais pour te répondre, quelqu'un peut-être qui a capacité d'épauler David. Parce que Bourak depuis le début de saison c'est
bah, mais c'est tu as Ouéa quand même qui peut faire le travail que faisait Ikoné, non, sur le côté, tu penses pas?
Ouais, mais Ouéa il est blessé, c'est ça le problème. Quand est-ce qu'il va revenir, on sait pas. Tu sais aussi bien que moi qu'un joueur qui est blessé il peut avoir quelques difficultés aussi à revenir, donc il y a quand même pas mal d'incertitudes par rapport à ça.
Mais... Oui. Alors Ouéa, moi c'est la grande tendance, hein. Bon, là je parle uniquement pour moi, hein. C'est la grande tendance du foot moderne, c'est de faire jouer des mecs qui jouaient avant-centre depuis les équipes de jeunes et puis qui, pour se faire une place en professionnel, sont obligés souvent d'aller jouer sur un côté. Alors avec des qualités de vitesse,
t'es obligé, Simon, aujourd'hui,
ouais, bien sûr.
Tu sais, si t'es pas polyvalent, tu risques de pas jouer,
bien sûr. Mais
alors de Lirola à Marseille, c'est un latéral mais qui participe énormément aux phases offensives.
Bien sûr, mais je pense à Martial, je pense à Rashford en Angleterre, Ouéa. Les plus jeunes de nos auditeurs ne savent peut-être pas quel joueur était son papa. Mais bon, je veux dire, bon, son fils était un numéro 9 aussi en équipe de jeunes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu... Je sais pas, une petite déception de pas voir ces joueurs-là jouer au poste auquel ils ont été formés durant leur jeunesse. Alors, Fred, tu parlais du départ de Jonathan Ikoné. Rien n'est encore officiel, mais c'est vrai que visiblement ça va se faire à la Fiorentina. On parle de 15 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses lilloises, selon les infos de RMC Sport. Pour le remplacer, le LOSC aurait ciblé Kang In Lee. sud-coréen qui joue à Majorque. Il est passé par Valence. Ouais. Est-ce que l'un de vous le connaît? Moi, j'avoue que je ne le connais pas.
Moi, j'ai regardé sur YouTube quand même, parce que quand on regarde sur YouTube, c'est jamais bon signe. C'est parce que tu ne connais pas tout. Non, mais blague à part. Après, c'est-à-dire qu'il connaît. Moi, je ne vais pas pleurer dans les chaumières. Même s'il a fait une belle partie retour de la Ligue des Champions, il a été un artisan de la qualification, il faut surtout pas cracher dessus, loin de là. Mais il connaît depuis un an, même l'année du titre, il est quand même assez inconstant, tu vois.
Ouais,
donc pour moi, c'était pas un titulaire indiscutable, mais merci quand même à Ikoné pour ce qu'il a fait.
Tout de même.
Les derniers matchs de Ligue des Champions. Tu vois, dans mon discours, je suis pas du tout en train de dénigrer. Mais maintenant, effectivement, il faut qu'il soit remplacé. Moi, ce joueur-là que j'ai regardé sur YouTube, bon, il a l'air de bien tricoter.
Kang In Lee, annoncé comme un dribbleur, effectivement.
Ouais, on verra.
Manu, le départ d'Ikoné, bonne ou mauvaise nouvelle? Est-ce que tu es plutôt sur la ligne de Fred?
Lille était obligé d'un petit peu de vendre pour enfouer un petit peu les caisses. Donc, ils ont quand même un effectif qui est quand même énorme. La perte d'un joueur, un attaquant, peut laisser la place à peut-être à VA, comme on a dit, mais à Liadji aussi, qui peut être intéressant sur le côté. Donc il a été peu utilisé avec Lille en ce moment. Mais il y a tellement de joueurs à Lille que prendre un autre joueur parce qu'il y a un joueur qui s'en va, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution.
Et peut-être que ça pourrait pousser un Yazici, par exemple, qui est très décevant depuis le début de la saison, à retrouver un peu le niveau qu'il avait l'an dernier. Pour finir sur les infos de la rédac de RMC Sport, côté départ, ça devrait être calme pour des joueurs très convoités comme Sven Botman, le défenseur hollandais qui est courtisé notamment en Angleterre, Liverpool, mais également Newcastle qui ont un œil sur lui.
Newcastle contacte tout le monde.
S'ils pensent aussi qu'ils vont se sauver uniquement grâce à Botman, même si on parle d'un joueur de grande qualité, c'est un peu illusoire. Renato Sanchez, là aussi bonne nouvelle pour les supporters lillois qui devraient terminer la saison. Jonathan Bamba pour en terminer, qui pourrait obtenir un bon de sortie en fin de saison. Toutes ces informations sur le LOSC et sur tous les clubs de Ligue 1 sont à retrouver dans l'excellent article publié cet après-midi sur le site rmcsport.fr. Un boulot remarquable de toute la cellule transfert de la rédaction de RMC Sport. Vous restez bien avec nous, les auditeurs, on se retrouve dans un instant. Le RMC Football Show revient pour la dernière ligne droite. Ce sera l'heure d'écouter un petit passage best-of de Rotten sans flamme, l'émission qui est à l'antenne d'ordinaire à cette heure-là et que vous retrouverez évidemment à partir du 3 janvier.
Avec mon ancien entraîneur, Arsène Wenger.
Et oui, évidemment.
Un an à Monaco et on a été champion de France.
Oui, évidemment.
87,
évidemment.
Ça te dit quelque chose, non?
Ah ben, écoute, non, le titre, non, mais écoute, moi je suis de 82 et je commençais quand même à m'intéresser un petit peu au football.
Au football, mais c'était pas encore ça.
Non. Non, mais je me souviens du style d'Arsène Wenger qui dénotait déjà le professeur. Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show en compagnie de Manuel Moros. On revient dans un instant et on parlera de cette idée un petit peu bizarre de Coupe du Monde tous les deux ans. A tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Simon Dutin.
À 19h29, on attaque la dernière ligne droite du RMC Football Show qui continue toute la semaine en cette période de fête, évidemment. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Manu Amoros. On a parlé mercato ligue 1, on a parlé mercato européen et on continuera évidemment toute la semaine à vous demander ce que vous souhaitez évidemment pour votre club. Mais vous le savez également, c'est un des rendez-vous de la semaine. On vous gâte avec chaque jour un best-of de l'émission qui montre Rotten sans flamme tous les soirs en semaine 18h20. Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour avec leur équipe de consultants, Pascal Olmeta, Mathieu Bodmer, Nicolas Nelka, Jean-Michel Larquet, ancien entraîneur avec qu'est-ce que je suis bête, Jean-Michel Larquet, ancien joueur de Saint-Etienne, oui, du PSG, dire ancien entraîneur de Manu Amoros, je confonds avec celui dont on va parler dans un instant,
avec Arsène,
évidemment.
J'aurais bien aimé par Jean-Michel.
En tout cas, Jean-Michel Larquet qui ne dépareille pas dans cette troupe de consultants, non. C'est le feu évidemment tous les soirs en semaine sur RMC autour de Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour. Aujourd'hui, retour sur le passage donc de celui qui a entraîné Manu Amoros et qui a été champion de France, tu nous le disais, en 87 avec l'AS Monaco, Arsène Wenger.
Ça, ouais.
Il est passé dans l'émission le 1er octobre dernier et l'ancien manager d'Arsenal, désormais directeur du football à la FIFA, s'il vous plaît, venait défendre son projet de Coupe du Monde tous les deux ans. On écoute et on en reparle après.
Bonsoir Monsieur Wenger.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir coach. Mais il y a Manu Petit hein, qui est là avec, avec nous.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Arsène, ouais, bah déjà merci beaucoup de participer à Rotten sans flamme aujourd'hui et puis de répondre un petit peu à nos questions parce qu'on se pose, moi je me pose beaucoup de questions et je suis pas forcément un grand fervent de votre démarche, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu bah, d'où le ça vient le projet de réforme un petit peu
du calendrier international avec cette Coupe du Monde qui passerait de tous les 4 ans à tous les 2 ans ainsi que l'Euro, ça ferait une grosse compète par an.
Exact.
Oui, d'abord, mon programme au départ, c'est de donner une chance à tout le monde dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous êtes né en Afrique, en Europe ou en Asie, vous n'avez pas la même chance de devenir un grand joueur de football. Après, le calendrier international est fixe jusqu'en 2024. On m'a proposé d'essayer de réorganiser le calendrier international à partir de 2024, c'est-à-dire toutes les décisions qui vont être prises en considérant que la Coupe du Monde est en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ne vont entrer en ligne de compte finalement qu'en 2028, dans 7 ans. Donc il n'y a pas une urgence énorme. Alors, pour réorganiser le calendrier international, si vous voulez, on pourra en discuter plus en détail. J'ai été guidé par certains principes que je peux vous donner, et j'ai consulté énormément de monde, en sachant que à chaque fois, je demandais plusieurs questions. Un, est-ce que vous pensez qu'on peut rester avec le calendrier actuel et ne rien changer et continuer après 2024 comme il est aujourd'hui? Il y a 100% d'unanimité pour me dire non. Deux, je propose un calendrier. Et je dis à chaque fois, si vous avez de meilleures idées, surtout n'hésitez pas à me les proposer et on va les intégrer. Et trois, la Coupe du Monde, tous les deux ans, dont tout le monde parle, parce qu'on ne retient finalement que ça, ça fait partie de ce calendrier global.
Oui, alors c'est la mesure forte quand même, hein, la Coupe du Monde tous les deux ans. Effectivement, c'est le bout de la démarche, mais quand même, ça changerait beaucoup de choses dans les habitudes du foot, Jérôme.
Ce qui changerait énormément de choses, parce que qui dit Coupe du Monde tous les deux ans, dit forcément l'Euro tous les deux ans, donc une grande compétition tous les ans. Donc, vous avez...
T'as peur qu'on banalise l'événement,
Jérôme, un petit peu comme certains. On a entendu dernièrement Didier Deschamps, mais même d'autres, même les joueurs, hein, alors la plupart des joueurs. Est-ce que vous avez eu ces retours-là aussi sur la banalisation de l'événement?
Je dirais plutôt, il y a une peur. Il y a une peur de perte de prestige de la compétition. C'est une question qu'on peut se poser, que j'ai été comme vous élevé au foot tous les 4 ans. Et je n'ai pas manqué une Coupe du Monde depuis 82 et j'y étais à chaque fois. Donc, Dieu sait si j'aime cette compétition. Mais je pense que le prestige n'est pas nécessairement lié à la distance entre les deux compétitions, sinon on aurait intérêt à la mettre encore plus loin. Je pense que le prestige, que c'est lié à une peur, que le prestige vient avant tout de la qualité de la compétition, du fait que le monde entier se retrouve là, et du fait aussi qu'on propose de véritables compétitions. Le respect des supporters, pour moi, commence par leur proposer de véritables compétitions. Et j'ai été guidé par, un, la simplicité, n'organiser que des compétitions que tout le monde comprend. On joue aujourd'hui des matchs, tu demandes des supporters dans la rue, ils ne savent pas pourquoi tu joues. Donc, de ne organiser que des compétitions que les gens connaissent, j'ai été guidé aussi par moins de voyages pour les joueurs. C'est-à-dire, j'ai voulu regrouper les matchs de qualification et j'ai voulu faire moins de matchs de qualification.
Mais pourquoi excusez-moi de vous couper, Monsieur Wenger, vous mettez en place le fait qu'il y ait moins de déplacements? Est-ce que les joueurs, vous avez entendu les joueurs se plaindre de ça?
Non, mais j'ai consulté des spécialistes de la récupération. Nous, en Europe, on est un peu gâtés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les meilleurs joueurs jouent en Europe. Mais quand tu es sud-américain et que tu joues en Europe, à chaque interruption de matchs internationaux, tu prends l'avion, tu vas en Amérique du Sud, et quand tu arrives là-bas, tu joues peut-être de nouveau à 2000 km, et le mercredi soir, qui est le jeudi matin souvent, et tu reviens pour jouer le samedi.
Ouais.
Et les médecins sont formels ce sont les voyages répétés, les chocs climatiques et la différence de fuseau horaire de plus de 3 heures qui tue les joueurs.
Et pour combattre alors, ça, je exemple, précise votre proposition, exemple, a, c'est de, je précise juste votre proposition pour combattre ça, c'est donc moins de trêves internationales. Actuellement, en gros, il y en a 5. Mm-hmm. Et vous, vous souhaiteriez ramener ça à 3 fenêtres plus longues.
Non, à 2.
À deux, pardon. Et plus la grosse compète. Deux plus la grosse compète, c'est pour ça que je disais ça. Mais plus longue, plutôt sur 3 semaines, voire un mois, contrairement actuellement exactement. Où c'est 2 semaines.
Regardez par exemple en Europe actuellement, vous savez combien de pays il y a en Europe? 55. Il y a 24 pays qui se qualifient. On parle, l'Europe, l'UEFA va sans doute monter à 32. Pourquoi jouer des matchs de qualification quand vous avez 32 équipes sur 55 qui se qualifient de manière aussi longue? On n'a pas besoin de faire 10 matchs. Mmh. Réduisons le nombre de matchs de qualification parce qu'ils ont moins de sens et moins d'intérêt aujourd'hui. Et augmentons la qualité de la compétition. Ceci dit, ce que je propose n'est qu'une proposition. Ce n'est pas moi qui décide. C'est l'ensemble du football mondial qui va décider. Et je pense, si vous voulez, qu'il faut... L'Europe est super dominatrice aujourd'hui. Mmh. Il y a 55 pays en Europe. Il y a 13 pays européens qui ont la Coupe du Monde. Il y en aura 16 quand il y aura 48.
Et monsieur
il y a 54 pays en... Pardon ?
Oui, non.
Arsène Wenger avec nous sur RMC dans Rotten sans flamme. Je le rappelle juste pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre.
Est-ce que vous auriez aimé avoir... voir disparaître vos joueurs, donc... Une fois dans l'année pendant trois semaines, un mois, et surtout les joueurs qui sont pas sélectionnés, oui. Qu'est-ce qu'ils font en attendant en fait?
Ben ils s'entraînent tout le monde, hein, ils s'entraînent. Aujourd'hui c'est pareil, quand tu as une interruption au mois d'octobre, novembre et septembre, à chaque fois tu as 2 semaines où les internationaux partent et les autres ils restent là, ce qui fait qu'il reste pratiquement 35 jours sans compétition. Mmh. Et la seule différence, c'est qu'on regrouperait la période pour leur donner un peu de repos et puis à entraîner. Parce qu'en général, dans les grands clubs, c'est les grands clubs qui fournissent les internationaux. On pourrait travailler à ce moment-là avec les jeunes. Ceci dit, dans mon programme, je reconnais qu'il y a encore beaucoup de problèmes de logistique et d'organisation et oui. À régler. Hein.
Est-ce que vous n'êtes pas la caution sportive, football, puisque vous dites que c'est votre moteur, pour déguiser un projet qui est avant tout mercantile? La FIFA veut sans doute faire plus d'argent en faisant des compétitions de façon plus rapprochée. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il y a derrière cette réforme?
Quand moi je me suis mis à mon bureau et j'ai réorganisé le calendrier, il n'y a aucun souci financier là-dedans, on ne m'a rien demandé sur un plan financier. Ceci dit, les finances de la FIFA sont aujourd'hui totalement transparentes. Et les finances de la FIFA vont pour aider les pays. Quand vous êtes, si vous avez 15 ans aujourd'hui au Zimbabwe ou au Botswana, vous n'avez aucune compétition pour jouer. Vous êtes né en Europe, évidemment, vous avez les terrains, les structures et les coachs et les compétitions.
Oui, mais coach, n'est-ce pas la prérogative des pays, justement, c'est leur souveraineté, justement, de développer à la fois d'un point de vue structurel, mais également les compétitions?
Oui, évidemment, mais tous ces pays n'ont pas non plus l'argent et c'est la FIFA qui peut les aider. Ils ont même pas, parfois pendant la Covid, même pas eu l'argent pour payer leurs fonctionnaires. Donc pour que l'argent, au départ, n'est pas le premier mobile. Mais c'est vrai que dans certains pays, il en faut pour organiser des compétitions, pour construire des stades. Et la FIFA est un des points d'appui qui peut les aider. Au départ, je pense tout simplement... Aujourd'hui, la Coupe du Monde, il y a 5 pays africains qui vont à la Coupe du Monde. Mmh.
Non, mais ça s'entend. Ça s'entend, Monsieur Wenger. Là, franchement, cet argument-là s'entend. Je prends l'exemple de Georges Weah, que vous avez bien connu à Monaco. Georges Weah, il n'a pas eu l'opportunité, malheureusement. C'était un joueur incroyable de jouer une Coupe du Monde. Avec votre formule, peut-être qu'en effet, il aurait l'occasion d'en jouer au moins une.
Ça ne l'a pas empêché de devenir président de son pays. Hein.
Oui, non, mais bon, jouer une Coupe du Monde, c'est spécial, Manu, quand même.
Bah, il a été ballon d'or aussi.
C'est pas à toi que je vais dire le contraire.
Ouais.
Arsène Wenger, est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous avez annoncé ce projet, que vous êtes en train de convaincre les gens? J'ai l'impression que de plus en plus, on voit des acteurs du foot. Alors, c'était pas tout à fait le cas de Didier Deschamps hier, qui avait peur qu'on banalise la Coupe du Monde. Mais en même temps, il dit, si toutes les parties.
Il ferme pas la porte.
Voilà, il ferme pas la porte non plus. Est-ce que vous avez l'impression de convaincre de plus en plus de gens?
Oui, parce que, écoutez, au départ, même moi, quand ça m'est venu, cette idée, je me suis dit, oh putain, là, t'es en train de déconner un peu. Et j'ai eu un mouvement un peu de recul instinctif, parce que moi, j'ai vécu que ça, la Coupe du Monde tous les 4 ans. Après, je me suis dit, oh purée, c'est intéressant, il faut creuser l'idée. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette réaction. Au départ, ils sont réticents, parce que...
Bah, c'est une tradition, ouais.
De tradition, qu'on a tous grandi en attendant cet événement, mais en même temps, le monde d'aujourd'hui a changé. Et ça ne rentrera. Quand on regarde ce qui me frappe dans les mouvements d'audience chez les jeunes, c'est en les 10-15 ans ou les 15-20 ans, ils ont une philosophie totalement différente. Mmh. Et on a un exemple cette année. Il y a eu les championnats d'Europe cette année qui ont été merveilleux et de grande qualité.
Ouais, ouais.
On a une Coupe du Monde l'année prochaine. Personne.
Oui, là, il y a un an et demi d'écart, effectivement. Arsène Wenger, est-ce qu'il y a des grands noms du foot, en dehors des ambassadeurs FIFA, qui vous ont dit que le projet était bon ?
Beaucoup. Beaucoup. Non, mais honnêtement, sur le regroupement des matchs de qualification,
oui,
pour une meilleure séparation des clubs, des matchs de clubs et des matchs d'équipe nationale, tout le monde est d'accord.
Dernière question, Monsieur Wenger, sur Manu Petit, parce que bon, il vous appelle coach depuis tout à l'heure, donc j'ai l'impression qu'il est encore en train de jouer,
joueur.
Bah, ça sera en 98, et ça c'est mon avis, vous pensez pas qu'il aurait mérité le Ballon d'Or quand
mais
même.
Non, qu'est-ce que tu racontes?
Bah, c'était le meilleur joueur de l'équipe de France quand même.
Mais n'importe quoi.
Arsène, plusieurs fois.
Non, mais
coach, c'est indépendant de ma volonté.
Tu laisses, tu il est modeste et un peu.
Ouais, bon, ça dépend avec qui.
Mais je suis d'accord, quand vous avez au départ dit que c'était l'homme de 90,
bah oui,
je
oui.
suis d'accord.
Eh ben bravo.
Bah bravo,
merci Arsène.
Bravo. Tu vois Manu,
c'est gentil. Bon,
vous allez faire pleurer Manu, bah bravo.
Merci Arsène Wenger.
Merci beaucoup, coach, en tout cas.
Voilà, c'était votre dose quotidienne de Best of de Rotten sans flamme, l'émission qui monte et que vous retrouverez évidemment à partir du 3 janvier autour de Jean-Louis Tour et Jérôme Rotten. Manu, très rapidement, ta réaction, je sais que tu t'es déjà prononcé à l'antenne sur ce sujet, ce projet de Coupe du Monde tous les deux ans, toi qui en as disputé deux en 86. Instinctivement, ça te dit quoi?
Moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est qu'on prend jamais la position des joueurs parce que c'est eux qui vont rendre une compétition agréable à voir et prestigieuse comme la Coupe du Monde. Donc il faudrait d'abord demander aux joueurs, mais le problème c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de matchs, on se plaint, les clubs se plaignent, les sélections se plaignent, les joueurs se plaignent, il risque d'avoir des blessures aussi si on fait une Coupe du Monde tous les deux ans, donc il y a une préparation à faire aussi. Tu peux pas arrêter un championnat et une semaine après faire une Coupe du Monde. Il faut quand même un temps de repos pour les joueurs et une reprise pour la Coupe du Monde. Donc il va falloir réorganiser un calendrier mondial et ça va être compliqué.
Et puis évidemment avec cette question légitime quand même du prestige lié à un événement effectivement.
Tous les 4 ans c'est bien, ça amène un prestige. Tous les 2 ans que ça va amener? Ça va amener un moins de prestige à cette Coupe du Monde.
Effectivement, un débat encore loin d'être tranché. Tu parlais de la position des joueurs. On rappelle que lundi à Dubaï au Globe Soccer Awards, Lewandowski et Mbappé qui sont quand même deux des 5 meilleurs joueurs du monde était contre. Mbappé disait tous les 2 ans ça deviendra une chose normale de jouer une Coupe du Monde et cela ne devrait pas être
mais
comme ça.
Mais tu vois, Arsène Wenger disait qu'on ne parle pas d'argent, mais la FIFA elle parle de l'argent, parce que pour faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est parce qu'il faut rentrer de l'argent et quelque part les joueurs ils sont impuissants à ça, parce que leur décision c'est peut-être de ne pas faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais si la FIFA décide de la faire, ils vont la faire avec bien sûr l'accord de toutes les fédérations.
Oui, en tout cas, on en saura plus dans quelques temps et c'est un débat qui divise évidemment dans le monde du football. Avant de se quitter quelques instants, je vous donne cette information qui vient de tomber, la jauge sanitaire dont on parlait pour les enceintes sportives, 2000 personnes, on le rappelle, en intérieur, 5000 en extérieur, pourrait devenir proportionnelle. C'était réclamé par les clubs dans le cadre de l'étude en commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Un amendement en ce sens a été adopté ce soir à l'Assemblée nationale. Il avait été déposé par Sacha Houlier, député La République En Marche de la 2e circonscription de la Vienne, alors que le rapporteur du texte, Jean-Pierre Pont, également député de la majorité présidentielle, avait été émis un avis défavorable. Selon les informations de RMC Sport, le texte sera voté lundi en séance. Ensuite, il ira au Sénat, il reviendra à l'Assemblée nationale. Voilà. Le gouvernement a annoncé que l'emprunt...
Ça va prendre combien de temps tout ça?
Non, on peut espérer.
Le championnat sera peut-être terminé. On parlera peut-être de jauge pour l'année prochaine.
Non, ce sera décidé tout ça avant le 15 janvier. Sacha Houlier, donc le député à l'origine de cet amendement, a tweeté il y a une heure à peu près. D'accord. Et s'est félicité en parlant d'une décision de bon sens. Évidemment, affaire à suivre. 19h46, on se quitte quelques instants. Je vous le disais, on se retrouve dans un instant pour la dernière, toute dernière ligne droite de ce RMC Football Show. On parlera des 16e de finale de la Coupe de France et de ces belles histoires. Est-ce que vous les aimez, ces histoires de petits poussés ou Cendrillon, ces poncifs de notre profession? Jura Sud et son entraîneur Valentin Guichard affrontent l'AS Saint-Etienne. On en parle dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Simon Dutin.
À 19h48, c'est la toute dernière ligne droite du RMC Football Show. Ce mercredi 29 décembre, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous retrouverez évidemment l'after après nous autour de François Pinet, entouré ce soir de Sébastien Piocelle et Florent Gautreau. Du foot au programme évidemment, mais aussi du basket en fil rouge, le All-Star Game, la grande fête du basket français à l'Accor Arena, où on retrouve Arnaud Valadon. Rebonsoir Arnaud.
Rebonsoir Simon, rebonsoir Manu. Un premier vainqueur de concours pour les meneurs. Justin Bibbins, le meneur de l'Élan Béarnais, brillant quatrième de Betclic Elite, a remporté ce concours pour la première fois, première participation. En ce moment, c'est le concours de tir à 3 points qui débute ses qualifications. On vient d'avoir Chris Warren, le joueur d'Orléans, mais Nicolas Bayou qui nous fait vivre aussi cette soirée, un invité pour ce All-Star Game de basket.
Ouais, bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. On est avec Antoine Netto, vous le connaissez, il a joué au Mans, il est à Chalon-sur-Saône. Il vient de terminer le Skill Challenge, le concours de meneur. C'est un parcours sur le terrain de rapidité, il faut shooter vite, il faut dribbler vite. Arnaud, ça a été très Antoine, ça a été très très vite ce concours.
Très très vite,
remporté par Bibbins.
J'avais l'impression d'être un big man avec des tout petits. On aurait dit Stéphane Brun.
Antoine, t'as l'habitude ce genre d'ambiance, mais là c'est particulier aujourd'hui parce qu'on sait qu'à partir de lundi les jauges vont ramener les salles avec 2000 personnes sans doute pour les salles de basket. C'est une chance ce soir, ce spectacle.
Ouais, c'est ce que je dis, c'est une vraie chance et c'est un peu le c'est un cadeau de Noël, c'est un peu le dernier truc top, j'ai envie de dire, où les gens peuvent un peu se lâcher, venir et pas réfléchir à cette pandémie qui est horrible pour tout le monde. Donc voilà, moi voilà, il y aura sûrement des choses dites après et tout, mais moi je trouve ça vraiment positif et j'ai envie de profiter.
Merci Antoine. Le concours à 3 points se poursuit en ce moment à Bercy.
Et tout au long de la soirée, messieurs.
Nicolas Bayou, Arnaud Valadon, que vous retrouverez en fil rouge toute la soirée sur RMC sur RMC dans l'after autour de François Pinet, évidemment, la grande fête du basket français à l'Accor Arena. Évidemment, 20h15, le coup d'envoi du match des étoiles. Mais pour l'instant, on se tourne, nous, vers les 16e de finale de Coupe de France. Prévu ce week-end. Jusqu'à maintenant, son match n'est pas menacé, pas encore, par le virus Covid. On accueille Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura Sud, club de National 2, qui reçoit dimanche les Verts de Saint-Etienne. Bonsoir Valentin, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show.
Bonsoir à tous et merci à vous pour l'invitation.
Eh ben justement, je le disais, on aime évidemment ces histoires de la Coupe de France. Évidemment, on ne vous fait pas offense en disant que vous êtes le petit poussé dans cette rencontre face à l'AS Saint-Etienne. Petite question tout d'abord, évidemment liée à l'actualité un petit peu pénible de ces derniers jours. Où en êtes-vous avec le Covid? Est-ce que vous avez des joueurs positifs et donc forfaits pour cette rencontre de dimanche?
Alors, il faut savoir que nous, tous nos joueurs et puis tous les membres du staff sont vaccinés, double vaccinés et triple vaccinés pour certains, et qu'aucun joueur n'est malade, donc tout le monde sera bien présent pour cette rencontre contre l'AS Saint-Etienne.
Bon, mais c'est déjà une première bonne nouvelle. On rappelle, club de National 2, alors même si vous affrontez la lanterne rouge de la Ligue 1, comment vous sentez ce match face à Saint-Etienne, dernier de Ligue 1, et qui, on peut l'imaginer, ne va pas vouloir laisser passer sa chance face à un club sur le papier un petit peu inférieur?
Bien sûr, après, comment dirais-je, c'est un match de Coupe de France, comme beaucoup de coachs et comme beaucoup d'équipes, comme beaucoup de... Ouais, de coach, je dirais que c'est du 50-50 sur un match. On peut rivaliser avec cette équipe qui, comme vous l'avez dit, est mal au point au classement avec un nouveau coach depuis quelques semaines. Donc, il y a des réglages à trouver, je pense. Après, voilà, je pense que nous, on s'y prépare au mieux. On a identifié des points forts et des points faibles. Et en tout cas, on va jouer crânement notre chance.
La bête est blessée, il faut en profiter, ou la bête est blessée, il faut se méfier d'autant plus?
Je dirais un petit peu des deux. Après, la réelle question, c'est de savoir également quels joueurs ils vont avoir à disposition, parce que ils ont certains joueurs qui peuvent potentiellement partir à la CAN. Alors au niveau des dates, on est un petit peu perdu, mais voilà. En tout cas, je pense que ça reste malgré tout une équipe sur le papier, peu importe les absents, qui sera largement supérieure. Et puis on va dire que cette position du petit pousset, comme vous l'avez dit, nous va très bien en tout cas.
Oui, alors ça c'est un poncif de notre profession, mais c'est vrai qu'on a du mal à.
Qui a pas perdu un match contre un petit?
Alors justement, Manu, toi, comment
ah oui,
qu'est-ce
j'en ai
que
perdu quelques-uns, ouais.
T'indique là avant cette rencontre alors, contre des Verts qui vont pas bien et.
Et puis aussi, Jura Sud qui est pas très bien et
moi 13e de votre groupe, c'est ça, c'est ça. National 2. Ouais.
Et,
ça,
et ouais. Vous avez tu as deux comme rien qui sont dans ton équipe. Est-ce qu'ils sont partis déjà à la CAN? Parce qu'hier, on a eu le sélectionneur des Comores, Amir, et qui nous a dit qu'il avait récupéré déjà tous ses joueurs.
Ouais, alors on en a un, nous, un Comorien, et qui malheureusement a souvent été présélectionné, qui a eu déjà quelques sélections par le passé, mais qui malheureusement n'a pas été retenu pour cette compétition. Donc il était un petit peu déçu. Mais voilà, le fait de jouer potentiellement un 16e de finale contre Saint-Etienne, je pense que ça lui a redonné un petit peu du baume au cœur.
D'accord. Et celui qui est parti, c'est Zakouani, non?
Voilà, c'est Zakouani, mais c'est lui c'est lui qui est souvent présélectionné et qui malheureusement n'a pas été retenu pour cette compétition.
Et Valentin, ça bosse, hein, ça bosse dans la Dream Team RMC. Il a bossé son Jura Sud, le Manu Amoros. Hein,
je me suis un tout petit peu occupé des Comores, c'est pas facile de chercher des joueurs un peu de partout comoriens qui jouent, et c'est vrai, dès qu'on en trouve, eh ben on essaie de les convaincre de venir jouer dans la sélection. Bien et c'est sûr. Pas évident parce que Comores, c'est un tout petit pays, c'est pas évident, c'est assez loin. Et bon, là, ils ont la chance de se qualifier, ils se sont qualifiés pour la CAN, et il faut leur souhaiter rien que du bonheur pour tout le monde.
Oui, bien sûr. Et puis voilà, je pense que Houssen, malheureusement, pour parler de lui, a aussi, du moins les blessures qu'il a eues là, sur les dernières semaines, lui ont fait un petit peu défaut. Mais voilà, j'étais un peu déçu aussi pour lui parce que c'est quelqu'un qui mérite au quotidien et puis qui a un réel talent, je pense, qui mérite encore un peu d'être poli, mais voilà, c'est quelqu'un qui potentiellement avait sa place, je pense, dans ce groupe-là. Mais bon, les choix du coach, on ne peut que les accepter.
Et vous avez un match en retard en championnat contre Saint-Priest. Il est programmé quand, tu sais, non ou pas?
Alors le match de championnat, il est programmé le 8 janvier, donc.
La semaine prochaine. Alors ça va aller vite.
Ça va vite arriver. Et comme vous l'avez un peu stipulé, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on est 13e au classement, et puis ce match en retard potentiellement peut nous faire remonter au classement.
Oui, parce que Saint-Priest, il faut dire qu'ils sont derniers du groupe.
C'est ça, ils sont derniers, mais bon, c'est des.
Ouais, c'est jamais facile de jouer les derniers.
Surtout que nous, on a plutôt performé contre les gros entre guillemets du championnat, et puis contre les équipes dites un peu plus faibles. On a eu des résultats pas tout le temps probants, donc voilà, faut s'en méfier en tout cas.
Bon, écoute Manu, tu présenteras l'émission demain.
Je serai volontiers
c'est
à t'écouter.
C'est toi le patron. Manu, justement, t'as eu des mauvaises expériences.
Quelques-unes. Alors ne me demande pas les noms d'équipes petites qu'on s'est fait éliminer parce que je m'en rappelle plus. Mais c'est vrai que tu sais, malheureusement, on a un état d'esprit qui est totalement différent quand on rencontre une petite équipe. On se dit toujours, on va gagner facilement tout ça. Et en fin de compte, on tombe contre des joueurs d'abord qui sont très bons, qui ont la seule compétition, qui peuvent rencontrer des pros, et ils se battent, ils s'acharnent contre nous, et on a du mal chaque fois à gagner. Donc si on les prend pas au sérieux, c'est compliqué. Donc voilà, et ça peut être aussi compliqué pour Saint-Etienne, parce que je pense que tous les joueurs vont être super motivés de rencontrer d'abord Saint-Etienne, qui a un passé extraordinaire, mais aussi ils savent qu'ils ont peut-être une possibilité de vaincre ce match et de se qualifier pour tour suivant.
Saint-Etienne, ça reste un adversaire magique pour un club de National 2. Valentin Guichard, je le rappelle, 18h30 au Parc des Sports du Bram à Louhan, 18h30, et on imagine beaucoup d'énergie positive autour de vous avant cette rencontre. On vous souhaite toute la réussite possible et on suivra évidemment votre rencontre face à l'AS Saint-Etienne, 16e de finale de la Coupe de France, votre rencontre qui n'est a priori pour l'instant pas menacée par le satané Covid. Bonne chance.
Bonne chance, Valentin.
Et merci d'être passé par le RMC Football Show. Manu Amoros, merci beaucoup de m'avoir accompagné.
Merci, Simon. C'est toujours de rien, merci à toi.
Un régal, on se retrouve demain.
Ouais, demain, à la même heure, 18h.
Eh ben, formidable, je vais utiliser ta qualité de pied pour faire une passe que j'espère décisive.
J'espère. T'étais un buteur ou t'étais plutôt défenseur, toi?
Je suis un passeur, moi,
Ah, t'es un passeur numéro 10, mais ça n'existe plus, tu sais, les numéros 10.
Justement,
maintenant.
C'est pour ça que je joue plus, j'ai les yeux dans le dos, et François Pinet a souvent profité de la qualité de mes passes, mais le problème, c'est son réalisme devant le but. En tout cas, je lui fais la passe parce qu'il prend
François,
la main.
François, il profitait des erreurs des autres pour. Ouais, ça va bien, toi, François.
Des saucisses en but, pour tout faire. Voilà la qualité des passes de Simon Dutin. Salut Simon, salut Manu. Oui, l'after, c'est pendant 4 heures, comme tous les soirs, pendant les fêtes avec Florent Gautreau et Sébastien Piocelle. On va parler de Kylian Mbappé, parce que vous savez que le 1er janvier, il sera libre de signer où il veut. Est-ce qu'il doit clarifier sa situation avant les 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid? Le 32-16, bien sûr, ouvert dès maintenant pour nous rejoindre. On aura la chance aussi d'être avec Jimmy Adjovi-Boko, légende de la Ligue 1, ancien du RC Lens, qui viendra nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis le live avec deux matchs de Première Ligue en direct. L'after, c'est tout de suite. Restez bien avec nous sur RMC.
RMC Football Show.